Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Où va l'écho. À l'heure de la guerre en Ukraine, de la désinformation, les tentatives de déstabilisation politique et industrielle à travers la cybersécurité, la question de la souveraineté numérique est plus que jamais d'actualité. Il en fut question aux 22e rencontres économiques d'Aix-en-Provence début juillet 2022 qui avait invité l'ancienne ministre du numérique et de l'innovation, Axelle Lemaire, aujourd'hui directrice déléguée de la Croix-Rouge en charge de la stratégie et de l'innovation. Que se cache-t-il réellement derrière cette notion de souveraineté numérique ? Axelle Lemaire, au micro d'Où va l'écho.
La manière de comprendre le mot souveraineté a beaucoup évolué. Il y a près de 10 ans maintenant, lorsque l'ancien ministre du redressement productif, Arnaud Montebourg, a voulu s'opposer à la vente de Dailymotion pour que ça soit racheté par Yahoo. Il l'a fait au nom de la souveraineté numérique. Et à l'époque, ça a vraiment créé beaucoup de réactions. Ça a fait des vagues parce que tout le monde trouvait qu'il était trop intrusif, qu'il allait contre la volonté des acteurs économiques, que c'était entravé la liberté des entreprises et du marché. Aujourd'hui, c'est plus du tout un gros mot, la souveraineté numérique, mais on sait toujours pas tellement bien de quoi on parle. En théorie, la vraie souveraineté, ça serait de dire on ferme nos marchés. Ça serait de dire on interdit la présence d'entreprises dans le numérique qui sont des entreprises étrangères. Exemple Huawei. Et la question s'est posée. Les États-Unis ont décidé d'interdire Huawei. L'Inde a décidé d'interdire TikTok, le réseau social chinois. Alors, et de manière assez intéressante, après cette interdiction, il y a eu plus d'une dizaine de TikTok indiens qui ont émergé. Donc ça, c'est une vision de la souveraineté. Je ne suis pas certaine qu'en France, on soit prêt à accepter cette vision-là, parce que fermer les marchés, ça veut aussi dire, à l'inverse, on ne peut plus exporter. Donc, on ne peut plus avoir les recettes issues de la vente de vin à l'étranger, de la vente de nos rames de métro, des armes, quoi qu'on en pense, etc. Et donc, ça veut dire ne plus évoluer dans des marchés ouverts. Il me semble que la manière raisonnable de comprendre la souveraineté aujourd'hui, c'est au sens d'autonomie stratégique. C'est ne plus être naïf, c'est ne plus dire nous on impose des libres marchés, des libres usages dans le numérique alors que les autres pays dont la Chine et les États-Unis bloquent. Ça veut dire soyons vigilants et disons-nous que la souveraineté c'est une liberté de choix. C'est créer les conditions pour que toutes les entreprises et même les petites, les PME, les start-up aient accès au marché. Que ça ne soit pas bloqué par les géants. Et puis, c'est de dire, nous, en tant que citoyens et en tant que consommateurs, il faut qu'on puisse choisir les outils qu'on veut utiliser.
Mais est-ce que cette stratégie est jouable uniquement dans un cadre national ?
L'approche la plus impactante, on va dire, la plus efficace, elle est européenne. La France joue un rôle très important pour influencer les politiques à l'échelle européenne. Je vous donne deux exemples. Le RGPD, vous en avez sans doute entendu parler, c'est la réglementation européenne la plus connue aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'elle est visible dans notre quotidien, parce qu'on passe nos journées à cliquer sur « je refuse » ou « j'accepte les cookies ». Il n'empêche que c'est une réglementation qui est européenne depuis 4 ans seulement. En réalité, on avait un RGPD à la française depuis 1978 et la naissance de la CNIL. Pour nous, ça n'a pas tellement fait de différence. En revanche, ça a permis d'harmoniser la protection de la vie privée en ligne et des données personnelles dans tous les pays d'Europe. Un deuxième exemple, il y a deux nouvelles régulations qui arrivent depuis Bruxelles, le Digital Market Act, le Digital Service Act. La France a été très, très, très active pour pousser ces réglementations qui vont permettre de donner un rôle spécifique aux géants. Dans le monde du numérique, il y en a qui sont des très, 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 très gros parce qu'ils ont énormément d'utilisateurs, par exemple. Et donc, cette puissance-là, elle va pouvoir être contrôlée plus qu'auparavant. Donc, la France a un vrai rôle qui est joué aujourd'hui dans la manière dont il faut définir les règles du jeu.
Il y a une vraie volonté, mais est-ce que, et surtout comment, on peut créer cette force, je vais pas dire force d'intervention, mais force de réaction collective ? Il peut y avoir du ciment, du liant dans tout cela ?
Oui, il y a plusieurs manières de faire. Alors, déjà, je donne un rôle spécifique à la régulation. Alors, peut-être qu'on va me targuer de vouloir être interventionniste, d'être intrusive dans la vie économique, etc. C'est un argument libéral classique. En réalité, dans le monde du numérique, la régulation, elle ne sert pas à entraver, elle sert à assurer les conditions libres et équitables d'accès au marché. Il faut bien comprendre que dans le monde du numérique, les écarts, les déséquilibres sont tellement grands entre une petite start-up qui veut émerger et un géant comme Google que si on ne régule pas, on accroît les inégalités d'accès au marché. Aujourd'hui, ce n'est pas possible de croître quand en face il y a une capacité d'investissement et de recherche qui est aussi imposante. Donc ça c'est première condition, c'est la régulation. La deuxième c'est l'investissement, j'en ai parlé. Et l'investissement, alors on le fait. Il se trouve que post-pandémie, heureusement, les programmes de relance permettent de se tourner vers l'avenir dans l'intelligence artificielle, dans l'informatique quantique, de vraiment soutenir financièrement des entreprises prometteuses au plan européen. Aussi l'investissement dans la recherche et le développement, les chercheurs, les universités, ça on ne le fait pas du tout, du tout, du tout assez. C'est incroyable quand on compare nos chiffres d'investissement dans la recherche fondamentale par rapport aux États-Unis et à la Chine. Je ne comprends pas qu'aujourd'hui ça reste l'angle mort des politiques publiques du numérique.
Donc vous êtes en train de nous expliquer, Axel Lemaire, que la souveraineté numérique, c'est en fait autant un défi industriel que réglementaire.
Exactement, et l'un ne s'oppose pas à l'autre, contrairement à ce qu'on a pu entendre auparavant. Moi, je me souviens lorsque j'ai défendu la loi pour une république numérique au Parlement. C'est une loi que je portais. C'était en 2016, et j'étais mais vraiment assez violemment accusée de vouloir mettre un frein à la croissance des entreprises françaises parce qu'on régulait. Et en fait, aujourd'hui, elle me remercie. Elle réalise que c'était nécessaire pour permettre cet accès au marché dont je parle. Il y a un troisième facteur qui est celui des standards techniques et des normes. Alors, c'est peut-être pas très sexy, hein, mais de s'assurer que les systèmes d'information soient interopérables, qu'on ne dépende pas d'une seule solution, ou alors qu'il n'y ait pas de lock-in, il n'y ait pas de loquet qui nous oblige à rester dans une solution. Je vous donne un exemple, le cloud, en français on dit l'info nuagique ou l'informatique en nuage. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'entreprises et de particuliers qui basculent dans le cloud pour héberger leurs données. Le problème, c'est que quand on choisit un cloud Google ou Amazon ou Microsoft Azure, eh bien, c'est difficile, surtout pour les grands acteurs économiques, d'en sortir après. Alors on voit hein, aujourd'hui quasiment toutes les grandes entreprises françaises, que ça aille de Airbus à la SNCF, ont adopté des clouds étrangers. Et en ce sens, ça interroge, est-ce qu'elles se sont permis aussi des alternatives? Est-ce que le jour où elles veulent adopter une solution française ou européenne, ça sera possible? Ou est-ce que d'un point de vue techniques, elles ne sont pas devenues trop dépendantes, notamment pour leur couche logicielle, sur des acteurs étrangers.
Quelle part la puissance publique doit occuper aujourd'hui dans l'aventure digitale par rapport à tous ces défis que vous nous présentez?
Importante. J'aurais même tendance, si je mets ma casquette d'ancienne ministre, à dire très importante. Et il faut cesser d'opposer l'économie à l'État. Au XXIe siècle, l'économie ne peut pas faire sans État et vice-versa. Et j'ajouterais comme troisième jambe la société civile et les citoyens. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est naïf de penser que les GAFAM ne travaillent pas avec les pouvoirs publics. La Silicon Valley, elle est née grâce au financement public. La Chine et ses acteurs économiques sont très, très, très étroitement liés, gouvernement et entreprise. Et ce n'est pas forcément le modèle qu'on veut en France, hein, et surtout que ça va souvent avec une autocratie. Mais en revanche, n'opposons pas les uns aux autres. Et aujourd'hui, les entreprises ont besoin de l'État et des pouvoirs publics pour donner un sens au numérique. Est-ce qu'on veut de la sobriété? Est-ce qu'on veut plus ou moins d'usage? Est-ce qu'on veut un numérique polluant ou moins polluant? qu'est-ce qu'on veut développer en premier comme technologie, pour quel type d'usage, est-ce que c'est pour la santé, est-ce que c'est pour l'éducation, est-ce que c'est pour l'équité dans les territoires, etc. Tout ça sont des choix fondamentaux de politique publique. Les acteurs industriels, économiques, ils développent des solutions, des produits, des services, mais ça ne doit pas se faire au détriment d'une vision politique.
À part la politique publique, la partie économique et financière, donc il y a les fameux GAFAM, hein, Google, Amazon, Facebook, on les connaît tous, Apple, Microsoft, on dit mais il faudrait un gros GAFA européen. On n'en a pas pour l'instant, il n'y a pas de Google européen. Est-ce que c'est un vœu pieux, cette volonté ?
Je sais pas, je trouve qu'on prend la question un peu à l'envers. Lorsque Mark Zuckerberg a créé Facebook, il ne s'est pas dit « ça y est, je crée un gros GAFAM américain ». Donc, commençons par identifier les petites pousses prometteuses, les startups innovantes qui ont un très fort potentiel et donnons-nous les moyens de les faire croître. Beaucoup disent « on a raté le coche sur les plateformes numériques », c'est-à-dire les places de marché comme Amazon, les réseaux sociaux, les magasins d'applications comme Apple ou les moteurs de recherche. En revanche, sur plein d'autres domaines, on n'a pas du tout raté le train. Je pense en particulier à la cybersécurité. Il y a de plus en plus d'attaques informatiques. Au fur et à mesure que le numérique est présent dans nos vies, le risque numérique croît aussi. Là, en cybertech, on a plein d'entreprises hyper intéressantes. C'est vrai aussi dans la green tech. Il n'y a pas un continent dans le monde qui affirme autant une priorité donnée à la transition écologique. Pour ça, les technologies peuvent accélérer cette transition. Donc là, on a aussi beaucoup de force. C'est vrai dans la medtech, donc toutes les technologies au service de la santé. Et dans le cloud, j'en parlais tout à l'heure, pour moi, le mot de la fin n'est pas dit. Oui, il y a des géants, mais on a aussi des acteurs nationaux et européens qui sont prometteurs. Et là, il faut qu'on arrive collectivement à sortir d'une certaine schizophrénie. Aujourd'hui, je rencontre beaucoup de gens qui me disent « Oh là là, je suis quand même inquiet pour l'usage de mes données personnelles, mais quand même, Google et Facebook et Insta, c'est génial. Et en plus, c'est gratuit. » Et puis, je rencontre beaucoup de directeurs informatiques qui me disent « Oui, moi, j'ai quand même des enjeux de souveraineté parce que je protège, par exemple, des données de santé parce que je suis directeur d'un hôpital. Mais pour autant, j'adopte Google Cloud comme solution d'hébergement de mes données. » En fait, je pense qu'il faut collectivement se poser la question de un choix individuel comme celui-là, quelles conséquences collectives ça a, et donc faire le pari des peut-être plus petits, peut-être moins techniquement ultra performants aujourd'hui, mais est-ce qu'on a besoin de la performance offerte par Azure? Je ne suis pas certaine qu'on en utilise tout ce pour quoi on paye quand on adopte le cloud de Microsoft. Et en tout cas, il faut se poser la question. Aujourd'hui, on ne se pose pas assez la question. Donc déjà, je pense faire preuve de courage dans ces choix technologiques et puis aux entreprises et aux pouvoirs publics de soutenir les solutions alternatives. Elles existent, elles sont trop petites aujourd'hui. Mais c'est en les utilisant qu'elles vont grossir, parce que l'économie numérique, elle a cette particularité qu'elle croît au fur et à mesure qu'il y a beaucoup d'utilisateurs. Enfin, c'est décuplé. C'est pas comme dans l'économie réelle normale. C'est pas uniquement vous venez acheter de l'électroménager, donc je grandis. Non, c'est les utilisateurs, ils se comptent par milliards, et c'est ça qui fait la puissance.
Donc, face à tous ces enjeux, on a une Axelle Lemaire qui est finalement résolument optimiste.
Résolument, non, parce que je suis nuancée. Je suis optimiste au sens où il y a de la place pour la volonté individuelle et collective. Il faut s'accorder sur le sens qu'on veut donner à la souveraineté et sur les actions à mettre en œuvre. Donc, optimiste, oui, parce qu'il y a un horizon des possibles devant nous. En revanche, si on ne fait rien, plutôt pessimiste.
L'ancienne ministre du numérique et de l'innovation, Axelle Lemaire, aujourd'hui directrice déléguée de la Croix-Rouge en charge de la stratégie et de l'innovation, elle était interrogée début juillet 2022 lors des 22e rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Merci à vous toutes et tous d'avoir écouté cet épisode d'Où va l'écho. Nous espérons qu'il vous aura plu et vous aura donné des clés pour mieux comprendre l'économie. Si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à laisser un avis sur la page de notre podcast et puis bien sûr à partager cet épisode. À très bientôt.